Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la technologie est-elle au service du pouvoir? Et si oui, lequel? Quels intérêts la technique sert-elle? Et en quoi neutralise-t-elle notre capacité d'être et surtout notre capacité d'agir? Avec nous, Diana Filipova, essayiste, chef d'entreprise, spécialiste des questions politiques et technologiques. Elle réfléchit notamment aux modèles sociaux adaptés à l'économie de demain autour de principes comme l'autonomie, l'équité ou encore la coopération. Pour la plateforme citoyenne Paris en commun, proche de la mère sortante, elle a notamment accepté récemment de se pencher sur la question des communs numériques. C'est bien que les mutations ne doivent pas conduire à être totalement privatisées, l'eau, l'électricité, mais aussi nos données. Après avoir coordonné l'ouvrage Société collaborative, la fin des hiérarchies, elle publie aujourd'hui Technopouvoir, dépolitiser pour mieux régner, aux liens qui libèrent. Bonjour à vous, Diana Filipova.
Bonjour, Olivia.
Merci d'être avec nous, faire partie de cette génération qu'on imagine séduite par cette rupture technologique, ce nouveau monde qui devait advenir avec la technique et les technologies, avec Internet notamment. Quels espoirs avez-vous placés dans ces techniques, dans cette technologie au départ?
Bah, je crois que je fais partie de cette génération qui effectivement a été séduite, éblouie par l'espace ouvert par cette nouvelle technologie, mais aussi une génération qui en a vu assez rapidement les limites et qui a été profondément déçue, désillusionnée, puisque les mêmes discours qui nous promettaient avant le progrès, le triomphe de la raison, aujourd'hui nous conduisent vers ce qu'on voit comme une aliénation. Et beaucoup de mes pairs aujourd'hui essaient de limiter leur temps d'écran, de portable, etc. parce qu'ils voient les technologies comme quelque chose qui les détourne de la vie, la vraie. Et donc c'est pour ça que je me suis interrogée à un moment donné sur ce retournement assez radical qui a pu se produire pour essayer de décortiquer ce qui, dans la technologie, nous amenait à la détester autant, alors même qu'on est complètement attaché à elle et qu'on est dépendant.
Aujourd'hui, vous proposez une sorte de contre-récit ou de contre-mythologie autour de ces technologies. Quand et comment vous en êtes revenu? Est-ce que vous avez souvenir de cette prise de conscience?
J'ai un souvenir très précis de l'impossibilité que j'ai éprouvée à dire quoi que ce soit d'intelligent ou de qui vaille d'être dit finalement sur les questions des technologies. Parce que j'écris sur ce sujet depuis longtemps. Et je me suis interrogée. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus critiquer la technologie de façon efficace? Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produirait un discours qui va retourner les trajectoires technologiques qui nous sont proposées aujourd'hui et peut-être donner voix à l'institution d'autres trajectoires. Pourquoi cette inefficacité? Et c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre, Technopouvoir, qui ne voit pas la technologie comme un ensemble de techniques, mais comme un mode d'exercice de pouvoir qui renforce un certain pouvoir en place et qui permet de gouverner les gens, vous, moi, tout le monde, de façon indirecte, de telle façon que nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte.
Qu'est-ce que ce techno-pouvoir implique exactement? Est-ce que vous diriez qu'il fait d'abord référence, alors moins au pouvoir intrinsèque de la technique qu'aux logiques de pouvoir qui ont émergé avec elle?
Bien sûr, il y a un aspect qui est assez fondamental, mais qui a déjà été développé par d'autres philosophes observateurs des technologies, c'est que la technique est par définition politique. Elle n'est pas neutre. En étant instituée, elle redistribue, elle refaçonne le pouvoir, la société, l'économie, que ce soit de façon politique ou symbolique. Mais il y a ce double rapport entre pouvoir et technologie. Le premier, c'est que la technique qui est la nôtre, les technologies qui sont les nôtres, industrielles, extractives, ont été instituées par le pouvoir au XIXe siècle. Le pouvoir industriel capitaliste. Et il y a une autre relation qui est un peu plus récente, qui est née au XXe siècle et qui a été renforcée avec les technologies du numérique, c'est que le pouvoir se sert de la technologie pour se renforcer, pour continuer à exercer sur nous un certain contrôle. Et en fait, les technologies du numérique, aujourd'hui, elles ont ce triple objectif. Le premier, c'est de réaliser un nouveau type anthropologique, qui est l'homo economicus, l'homo numericus, on pourrait l'appeler ainsi. Moi, je l'ai appelé l'homme sans qualité. Il structure notre environnement, ça c'est le deuxième point, de telle façon à ce qu'on ne sait même plus vraiment dans quel environnement on se met et comment il nous détermine. Et enfin, il agit sur le langage, de telle façon à ce qu'on ne puisse plus vraiment exprimer de façon efficace la critique, qui était précisément mon point de départ.
Mais cet homme sans qualité, c'est vous et c'est moi, c'est cet homo numericus, oui, à qui s'adresse ce technopouvoir aujourd'hui. aujourd'hui, c'est nous tous. Nous sommes la cible de ce technopouvoir.
Oh, il aimerait bien, mais bien sûr, nous sommes plus forts que ça. Mais l'homme sans qualité, c'est un homme justement qui n'a pas de subjectivité, qui n'a pas de rapport avec l'autre, qui est complètement seul et qui se réduit d'une certaine façon à une image de l'homme data, de l'homme donné. C'est-à-dire que nous ne serions finalement qu'un énorme tableau Excel avec des données. Cet homme est assez pratique pour le pouvoir puisqu'il est très flexible, il est gouvernable, il est prédictible. Donc réaliser un tel homme qui viendrait prendre en quelque sorte la succession de l'homme economicus voudrait dire en fait supprimer absolument toute possibilité de contestation et de critique.
Alors la question reste de savoir si la technologie a pris le pouvoir sur la politique ou si le politique a pris le pouvoir à un moment sur la technologie, et aussi se pose, et c'est une question récurrente, la question de la neutralité de ces technologies. Je vous propose d'écouter les mots du philosophe libéral Gaspard Koenig qui signait récemment un voyage, une odyssée à travers ce monde numérique. Philosophe libéral, sa réponse sur la neutralité technologique.
D'abord, je pense que c'est des technologies qui sont neutres en soi, idéologiquement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est d'abord une vieille technique qui date d'il y a plus de 60 ans, dont le développement est considérablement accéléré au cours de cette dernière décennie parce qu'on a de plus en plus de données et qu'on commence à maîtriser les techniques des réseaux de neurones et du machine learning où la machine apprend toute seule et n'a plus besoin de paramètres conçus par l'informaticien, et où on a par ailleurs une somme d'images labellisées qui permettent de nourrir l'intelligence artificielle qui est très importante. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des techniques tout à fait admirables et qu'il faut continuer à croire, me semble-t-il, au progrès. La question, c'est comment, à quelle fin et sous quel paradigme elles sont utilisées aujourd'hui, et notamment d'où proviennent et quel usage est-il fait des données qui les nourrissent. C'est ça la vraie question, plutôt que la technologie en elle-même. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'elle est utilisée à des fins assez différentes suivant les cultures dans lesquelles elle s'inscrit déjà. Effectivement, si on veut voir un usage totalitaire de l'intelligence artificielle, bienvenue en Chine. En Chine, il y a une confusion, et je reviens à la question des données qui est absolument centrale, en Chine, il y a une confusion totale entre les données privées et les données publiques.
Vous faites, vous, la même distinction que Gaspard Koenig, Diana Filipova, entre la technologie elle-même et l'usage qu'on en fait aujourd'hui?
Non, je pense que cette distinction est une construction, une fiction qui a été construite justement pour véhiculer et perpétuer le discours de neutralité de la technologie. En fait, Gaspard, dont j'admire quelques travaux bien sûr, illustre assez bien finalement mon propos dans le livre. En fait, la technologie n'a jamais été neutre. Elle ne l'a jamais été puisque elle se fonde déjà sur l'extraction des ressources et des matières premières. Ce que j'explique dans mon ouvrage justement, c'est que elle a été d'abord orientée contre l'environnement et contre le corps. Et à partir de ce moment-là, où elle a été instituée dans une certaine violence, une violence assez physique d'ailleurs, elle ne peut être considérée comme neutre. Aujourd'hui, je voudrais demander à Gaspard est-ce qu'il peut s'offrir la possibilité d'aller à son bureau en cheval. Non, parce que en fait l'infrastructure qui est la nôtre, elle est structurée pour qu'on y aille soit en métro, soit en vélo, enfin en tout cas pas en cheval. Or, le cheval, c'est une technologie de mobilité comme une autre. C'est-à-dire que l'environnement, en fait, structure en grande partie la manière dont on peut utiliser la technologie. Et c'est justement ça qui est clé dans le technopouvoir. C'est qu'une plateforme, Internet, ce ne sont pas seulement... cet objet, ce n'est pas seulement cet objet. Il y a...
Cet objet, c'est votre téléphone portable intelligent
que je vous montre. C'est toute une chaîne de production qui va des mines pour remonter jusqu'ici, qui va de l'extraction des terres rares et des terres vertes pour aller jusqu'à la constitution de cet objet. Et bien sûr, il n'y a absolument rien de neutre là-dedans.
Pourquoi vous dites que cette technique, ces technologies se sont constituées contre l'environnement et contre les corps?
Bon, c'est quelque chose qui a été assez visible dans les premières, dans l'arrivée notamment des premières machines qui sont venues au 19e siècle s'opposer à un atelier qui était organisé de façon complètement différente. Par exemple, la machine à vapeur, les technologies qu'elle a introduites représentaient en fait une très grande violence pour les travailleurs et les individus de l'époque. Elles ont complètement transformé en fait tous les milieux de vie, que ça soit la ville, que ça soit l'atelier, que ce soit l'industrie naissante. Et elles n'ont pas du tout été instituées dans la joie et la bonne humeur comme l'est la technologie du numérique qui ont bénéficié de 100 ans de développement de techniques ou de gouvernements beaucoup plus douces. Bien au contraire. Et il y a eu des révoltes, il y a eu des oppositions, il y a eu des morts. Quelque chose qui était très visible, hein, pas du tout comme aujourd'hui où finalement les victimes des technologies du numérique sont ne sont pas très visibles.
Elles n'ont pas été instituées aussi comme un progrès, elles n'ont pas constitué des progrès à chaque étape de leur insertion dans nos environnements. Vous parlez de l'exemple du cheval avec le vélo aujourd'hui, le bus, le métro ou le car. Ça a été aussi perçu comme un progrès à partir du moment où ces techniques, ces technologies sont entrées dans nos univers.
Elles n'étaient pas perçues spontanément comme progrès, bien au contraire. Le discours du progrès a été une condition de possibilité de l'institution de ces technologies. C'est là où on retrouve ce double rapport entre pouvoir et technologie. L'un au service de l'autre, l'autre au service du premier. C'est-à-dire que le progrès est un mythe, c'est une fiction qui aujourd'hui encore est brandie pour disqualifier toute critique de la technologie. Dans mon ouvrage, je parle de plusieurs de ces critiques, comme par exemple Jacques Ellul, qui est aujourd'hui injustement oublié, malgré la complexité de sa pensée. Il a très rapidement été disqualifié et écarté de de la bonne société des critiques des technologies, parce qu'il est considéré comme technophobe. Et donc ce discours du progrès, les techniques permettent le progrès, c'est une façon d'effacer toute critique. C'est pour ça que je me suis efforcée dans mon livre à ne pas rentrer dans un discours techniciste, à sortir de la technique des techniques, de ce discours permanent. Parce que dès qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, par exemple, eh bien, on est structuré par le propos même. On est obligé de parler de machine learning, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça va détruire les emplois, etc. C'est-à-dire que le discours même est organisé de telle manière à ce qu'on ne puisse pas réfléchir à l'intelligence artificielle comme le produit d'un certain système et d'un certain environnement qui, en fait, un environnement néolibéral qui est là pour réaliser un certain type d'homme, l'homme economicus, et l'homme sans qualité, et duquel on ne peut pas s'extraire par notre simple volonté.
Alors, quelle est la bonne question à se poser aujourd'hui ? Sous quelle forme ?
Comment sommes-nous gouvernés ? Par qui nous sommes gouvernés ? Comment pouvoir critiquer ? Comment pouvoir proposer une critique efficace de la technologie ? Je pense que cette question-là, aujourd'hui, elle est très largement posée par nous tous, puisque les réactions face aux techniques sont de plus en plus violentes et de plus en plus massives. Mais cette question-là aussi, elle vaut pour l'individu. Je pense qu'il y a une éthique individuelle à avoir, à se dire par quoi je suis déterminé. Et de refuser le discours du progrès et des libertés infinies comme une carotte hein, qui est toujours qui a un bon goût mais qui malheureusement nous détourne des bonnes questions.
Justement. Vous soulignez aussi Diana Filipova dans cet ouvrage Technopouvoir dépolitiser pour mieux régner la dimension polyphonique de ce technopouvoir, c'est-à-dire cette idée que malgré la multiplicité des voix, toutes ne parviennent ou n'arrivent qu'à une sorte de vision unique. C'est la même vision qui nous est proposée.
Oui, alors polyphonique, j'ai utilisé ce terme pour bien montrer qu'avec les technologies du numérique, il y a un nouveau cap qui est atteint dans les techniques de gouvernement, c'est celle de l'individualisation et de la personnalisation. Donc, technopouvoir, évidemment, c'est inspiré du concept de biopouvoir de Foucault, qui souligne bien les deux dimensions de tout pouvoir, c'est d'agir, le pouvoir libéral dans les sociétés libérales, c'est d'agir sur les corps, sur l'individu et sur les collectifs, sur nos ensembles. Eh bien, cette polyphonie, elle prend en compte ces deux impératifs, puisqu'on va proposer, en fonction de notre milieu social, de notre personnalité, de ce qu'on veut, des techniques de gouvernement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, face à un diplômé des grandes écoles qui veut s'engager dans une nouvelle carrière, on va proposer plutôt un discours très Startup Nation, qui est orienté sur la réalisation de soi, sur l'accomplissement personnel d'un objectif entrepreneurial et d'une vision entrepreneuriale, et à quelqu'un qui est un marginal, par exemple, qui bénéficie des minima sociaux et qui va de toute façon être fragilisé socialement, il va être soumis à un gouvernement beaucoup plus automatique, par exemple à des coupes sociales massives, des coupes budgétaires massives, ou tout simplement à une délégation des services sociaux au privé. Donc cette polyphonie, elle consiste à orienter les technologies en fonction de là où on vient pour être le plus efficace possible.
C'est le principe de la théorie du nudge que vous reprenez aussi, que vous évoquez dans cet ouvrage.
Tout à fait.
Parce que vous convoquez Ellul, Polony, mais pas seulement. Donc ces deux penseurs, et notamment Richard Taylor, qui était Nobel d'économie, et qui a développé avec Cass Sunstein cette théorie du nudge, du coup de coude ou du coup de pouce, qu'on peut évoquer comme ça, et qui se repose aussi sur cette économie comportementale, hein, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est à l'origine de nos comportements, des causes perçues comme irrationnelles ou difficilement identifiables, et donc tenter d'inciter, d'influer sur nos comportements pour nous aider à les changer.
Oui, tout à fait. Structurer l'environnement pour qu'on n'ait plus à se poser de questions, pour que quasiment tous nos choix soient orientés.
Soient rationnels.
Oui, idéalement de façon automatique. Tel. Idéalement, de telle façon à ce qu'on ne puisse même pas avoir ce qui oriente notre choix. D'où cette difficulté de percevoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce débat sur les fake news, sur la vérité et la fausseté qui nous anime aujourd'hui, il est, je crois, révélateur de cette difficulté à renouer avec ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, je crois que ce nudge, cette structuration de l'environnement qui est d'autant plus réalisable que les techniques du numérique sont propices pour les inscrire, les fondre dans l'environnement qui nous entoure. C'est pour ça que, évidemment, aujourd'hui, elles sont sollicitées par tous les pouvoirs du monde.
Pourquoi là, vous parlez de fake news? En quoi ça nous interroge aussi sur le régime de vérité dans lequel on évoluerait aujourd'hui? Qu'est-ce que le surgissement, depuis quelques années, de ces fake news, on n'en parlait jamais avant, dit de l'époque aussi?
L'impossibilité de se mouvoir dans le monde, la difficulté à connaître ce qui nous détermine, ce qui structure nos choix et nos discours. Je crois que c'est vraiment cela. En soi, les fake news, évidemment, c'est un argument qui est brandi par les uns et par les autres pour défendre leurs propres intérêts. Mais en soi, c'est cette difficulté justement à être soi-même en tant que société. Pas seulement en tant qu'individu, mais également en tant que société.
Vous dites que les technologies divisent aujourd'hui les individus plus qu'elles les connectent, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec toutes ces nouvelles technologies. Vous rappelez qu'à l'ère industrielle, la résistance était très forte aux premières techniques et qu'elle était même massive de la part des paysans, des ouvriers. Aujourd'hui, on a l'impression que cette résistance-là est plutôt tournée en dérision. Alors, est-ce que les ouvriers, les opposants au compteur Linky sont les ouvriers d'hier? Écoutez.
Dans les rangs des 250 personnes venues protester contre Linky ce samedi à Brest, on trouve autant de manifestants que de témoignages. Ce costard mauricain veut le retour de son ancien compteur. Il avait tout fait pour que Linky ne soit pas installé sur sa propriété. En vain.
J'ai fait des courriers à ERDF que j'ai placardés sur mon armoire qui se trouve à l'intérieur de ma propriété. Le 1er février, ils m'ont installé le compteur Linky. Ils sont rentrés, effectivement, ils sont rentrés dans la cour.
Pour bloquer l'installation de Linky, les opposants en appellent aux élus. Ce samedi, ils faisaient signer un mot de soutien qui sera envoyé aux maires des communes qui s'opposent à l'installation des compteurs.
Il y a 136 municipalités de France qui refusent les compteurs, qui ont fait des délibérations. Ce sont des maires courageux, donc on voulait leur envoyer un petit mot avec une signature pour leur dire que c'était bien et qu'on était derrière eux.
Voilà, là on est face à des peurs raisonnables ou totalement irraisonnées, typiquement de ces Bretons qui s'opposent à l'installation des compteurs Linky.
Non, il y a quelque chose d'assez classique dans cette résistance, c'est que finalement il ne reste pas beaucoup de voix pour s'opposer aux technologies, aux techniques, et ça, ce depuis le début. Donc non, il n'y a absolument rien d'irraisonnable. La question, c'est est-ce que ce sera efficace ou pas? Est-ce que c'est une bonne façon, toutes les œuvres, on va dire, de ces collectifs qui s'opposent sur le terrain, en fait, dans leur vie, aux techniques, sera porteuse d'un nouvel imaginaire qui nous permettra de proposer de nouvelles trajectoires technologiques demain? Je pense qu'ils font partie du puzzle, qu'il faut les prendre en compte, que ces résistances sont très importantes. Mais voilà. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant, puisque quelque chose de très important, c'est que la technique n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome du système où on est, du système politique. Elle n'est pas indépendante de l'imaginaire, du symbolique. Elle est au contraire profondément intriquée avec tout cela. Elle est même, en fait, d'une certaine façon, le produit de cet imaginaire. Donc, pour instituer de nouvelles trajectoires technologiques, il faudra inventer de nouveaux imaginaires. Et donc, c'est un travail de fond. Beaucoup plus général. Donc il faut penser à des nouvelles sociétés qui pourraient succéder à la nôtre, ou qui pourraient se fondre dans la nôtre. Et dans ces nouvelles sociétés, des nouvelles trajectoires technologiques en fait s'inscrivent de façon presque naturelle. Donc moi c'est plutôt pour cela que je plaiderais, tout en reconnaissant évidemment la totale légitimité des résistances qui s'opèrent aujourd'hui.
Mais il faut les repolitiser, en somme. Il faut repolitiser ces modes de résistance.
Je crois qu'il faut les repolitiser. Il faut tracer un trait entre les différents types de résistances qui se mettent en place aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, par exemple, donc l'antre des technologies du numérique, là où tout se produit, il y a des résistances individuelles très fortes. C'est-à-dire que les entrepreneurs envoient leurs enfants dans les écoles, j'en parle dans mon livre, où il n'y a aucun écran. Parce que il est bien connu que l'écran a une grande influence sur le développement des enfants, leur rapport avec le manuel, etc. C'est-à-dire que, en gros, ceux qui produisent aujourd'hui les technologies, dont nous sommes tributaires, font sécession, eux-mêmes, de leur côté. C'est quand même très révélateur de c'est des gens qui ont eu un accès à la connaissance de ce que ces technologies peuvent et ne peuvent pas. Donc on devrait peut-être écouter leurs conseils tacites et réfléchir individuellement à nos usages. Mais cela ne sera pas suffisant, puisque cette volonté de rabattre en permanence les technologies et leurs usages sur notre usage individuel, sur notre responsabilité individuelle, elle conduit encore plus à dépolitiser la question. Or, la repolitiser signifie les regarder comme étant des outils de pouvoir et de gouvernement des hommes, c'est-à-dire comme des outils politiques, mieux comme des tactiques de guerre qui pourraient faire partie d'un arsenal et qu'il faudrait voir comme tel. Et donc leur opposer aussi des tactiques et des stratégies que nous développons collectivement.
Ils ont dépolitisé pour mieux régner. Technopouvoir, c'est le titre de votre nouvel essai, Diana Filipova, qui paraît au lien qui libère. Pour l'heure, France Culture, il est 13h17 et vous êtes notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
La technologie nous gouverne d'autant mieux qu'elle est invisible, dites-vous, une emprise totalisante. Est-ce qu'on a été, à vos yeux jusqu'ici, passif face à cela? Est-ce qu'on peut encore inverser le cours des choses?
Oh, je suis persuadée qu'il faut inverser le cours des choses et qu'on doit absolument éviter de nous aussi faire sécession et de se dire que puisque rien n'est possible, eh bien il ne faut rien tenter. Effectivement, ça devient, je crois, de plus en plus difficile parce que une des entreprises du technopouvoir, c'est d'automatiser la contre-critique, de faire en sorte que nous ne puissions pas opposer aux idéologies, aujourd'hui, aucune résistance, aucune critique.
Ça a commencé, dites-vous, par une réappropriation du langage, hein, par l'adoption d'un langage très performatif et un contrôle même des mots que nous utilisons aujourd'hui.
Hein. Bien sûr, il suffit de regarder la manière dont on parle, par exemple, de l'entrepreneuriat et des startups. Il y a tout de suite beaucoup de mots qui sont automatiquement utilisés, un langage, une sorte de champ dans lequel on se meut et qui s'impose à nous sans qu'on le veuille dans notre, je crois, dans nos quotidiens, dans nos métiers, on est en permanence tributaire d'un langage qui s'impose à nous sans qu'on les choisisse.
Mais est-ce que vous n'êtes pas la première à le faire? Vous êtes directrice d'une agence de communication numérique. Est-ce que vous ne jouez pas vous aussi avec ces langues, cette langue et ces codes?
Bien sûr.
Qui nous échappent.
Opposé,
pour beaucoup.
Opposé au langage, le langage. Opposé au langage perpétuatif qui est déconnecté de la réalité des choses, un langage qui se fonde sur une compréhension du monde où l'on se trouve et qui se rattache à une réalité, à quelque chose qui est tangible et qui ne flotte pas au-dessus finalement de notre monde de façon parfaitement parallèle. Donc je crois que c'est cette activité qui est la nôtre de rattacher le langage aux choses, de le rattacher aux idées, de le rattacher à des idées, des objectifs, des idéologies, c'est une œuvre de résistance.
Mmh. Vous prenez un exemple qui est peut-être assez parlant, donc on peut s'y arrêter, celui de la transition énergétique. En quoi, dans ces mots, vous voyez la confusion et la neutralisation de cette contestation que vous évoquiez, de cette critique?
C'est pas de moi, hein. Il faut reconnaître, c'est de Jean-Baptiste Fressos qui l'illustre très bien, mais ça s'applique très bien à de nombreux termes qui ont été développés d'abord par les oppositions et les contestations dans les années 60-70, notamment par ceux qui, par les contestations et les oppositions écologiques, qui ont été finalement récupérées par le néolibéralisme pour les intégrer dans le système, et donc les désamorcer ce faisant. Concrètement, parler de transition énergétique signifie qu'on passerait d'un régime énergétique à un autre, que au régime extractif devrait succéder une nouvelle ère non extractive. En réalité, ce que j'explique très bien Jean-Baptiste Fressoz, l'historien Jean-Baptiste Fressoz, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition d'aucun régime énergétique à un autre, mais une superposition de régimes énergétiques qui ont tout simplement accru notre empreinte énergétique totale sans substituer un régime à un autre. Donc la transition, en fait, c'est une façon très simple de nier ce fait fondamental qu'on ne va pas réduire notre empreinte demain de façon aussi simple. Tout simplement qu'on va d'abord augmenter notre empreinte, pour le commencer. Donc la transition, c'est un terme finalement assez fallacieux qui nous fait croire que nous pouvons, comme ça, passer d'un régime à un autre sans changer grand-chose. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux.
Il y a d'autres ouvertures à faire. Je vous propose d'écouter les mots de François Jarige. Il a publié il y a 5 ans Technocritique à la découverte, où il proposait lui une contre-histoire du progrès. Et on y est là encore dans la discussion qu'on a sur la question des énergies, de la croissance imbriquée à l'écologie, une contre-histoire du progrès. Il revenait sur 3 siècles de progrès et d'évolution des machines. Écoutez.
Il y a des moments d'intensité de la technocritique, il y a des moments de reflux, il y a des moments où ces discours technocritiques sont nombreux, très abondants. C'est le cas au début du 19e siècle, c'est le cas dans les années 30, c'est le cas aussi dans les années 70. Et puis il y a des moments de reflux, hein, que j'appellerais des moments de cadrage modernisateur, où la foi et la confiance dans la technique est telle que tout discours critique est immédiatement disqualifié, délégitimé. Puis il y a des moments donc d'efflorescence de cette critique, hein, dans lequel nous sommes en réalité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment où le discours technocritique, c'est-à-dire cette contestation des trajectoires technologiques dominantes, elle est centrale, hein, à tel point qu'elle inquiète énormément les autorités. Aujourd'hui, on développe énormément de moyens pour faire accepter le changement technique aux populations, hein, à travers des programmes d'éducation, à travers la communication technoscientifique à destination des écoliers comme à destination du grand public, parce que le pouvoir a l'impression qu'il y a une montée de la technocritique, de la remise en cause de la foi dans la technique.
Voilà, sur cette remise en cause, vous avez, vous, avec d'autres, porté des contre-discours, et notamment celui de l'économie collaborative. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces discours-là sont vains ?
C'est un ouvrage très important, hein, de technocritique de François Jarige, très précieux. Nous avons porté des contestations. Nous avons porté de la contestation d'une économie plus horizontale, collaborative, coopérative, et nous avons évidemment été témoins et tributaires d'une récupération de ce concept qui aujourd'hui équivaut à la plateformisation, c'est-à-dire à la suppression des régulations. Aux plateformes, d'une dérégulation du travail, simplement. Donc oui, je crois que aujourd'hui la difficulté n'est pas que les critiques soient formulées, puisque le sont énormément et de façon paradoxale, elles peuvent être entendues assez vite grâce aux technologies du numérique, aux réseaux sociaux. Mais le problème n'est pas qu'elles puissent être formulées ou entendues, c'est qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles permettent de faire. Or, aucune d'entre elles aujourd'hui n'a donné lieu à une contestation politique. Tout simplement parce que une des œuvres du technopouvoir, c'est justement refuser le conflit, de refuser que le conflit est porteur d'une plus grande démocratie, qu'il est nécessaire à la démocratie, que la tension entre des idées et des opinions, elle est salutaire. En fait, la négation de cette conflictualité qui est absolument inhérente à la démocratie, elle produit justement aujourd'hui des explosions de violence, des contestations complètement imprévues et imprévisibles, de grande ampleur, des manifestations un peu partout dans le monde dont nous sommes témoins et qui proviennent tout simplement d'une négation d'un bon conflit, d'une bonne tension qui est nécessaire absolument à toutes les sociétés libérales.
En somme, remettre en cause ces technologies, c'est remettre en cause le modèle dans lequel on vit, c'est remettre en cause ce capitalisme qui a bénéficié de l'avènement de ces technologies et qui a rendu, à vos yeux, toute critique stérile, a réussi en tout cas à les digérer et à se les réapproprier sans permettre à des contre-modèles de voir le jour. Il faut réintroduire, dites-vous, de la conflictualité positive. Comment faire ?
Oh, ah, ça c'est une grande question. Je crois que on le fait tout spontanément, c'est-à-dire que nous voulons organiser des espaces dans lesquels la conversation et le débat est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, bien heureusement, des citoyens font des efforts absolument inimaginable pour participer à la vie publique, que ça soit au niveau local, au niveau de leur ville, au niveau de leur territoire. Enfin, occuper les espaces qui sont pas inoccupés aujourd'hui. Et, ou alors qui sont pas encore complètement maîtrisés. C'est absolument impossible de maîtriser la force de l'homme, sa volonté de vouloir agir et de se déterminer soi-même. Bien heureusement. Donc, non, il n'y a pas de négation totale, absolument, de toute critique, puisqu'elle continue à exister, à se battre où elle peut l'être. Le problème, c'est que elle n'est plus portée à un niveau institutionnel global. C'est qu'elle ne peut plus trouver les bonnes institutions pour devenir une force politique. C'est pour ça que tous ces débats et toutes ces critiques qui sont formulées butent à un moment donné à leur propre incapacité à faire contre-modèle. En tout cas, contre-modèle qui s'impose à un niveau national ou communautaire. Mmh.
C'est-à-dire qu'au niveau des échelles, si on doit réfléchir, vous plaidez plutôt pour le agir local aujourd'hui.
Moi, je suis pour tout. Ouais. Moi, je suis pour toutes les échelles.
C'est intéressant parce que Bertrand Badie dit qu'on est arrivé, il le voit, à travers cette interconnexion des contestations aujourd'hui, du Liban en passant par le Chili, la Bolivie, Hong Kong, ou encore la France, comme on a connu pendant un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Il voit, lui, un acte 2 de la mondialisation aujourd'hui. Donc, on peut, là encore, imaginer pour vous une mondialisation positive, ou en tout cas qui connecterait aussi ces nouvelles formes de critique et de contestation du modèle en place?
Je ne sais pas.
De ce technopouvoir.
Je ne sais pas si ça sera, qu'est-ce qu'il en sortira, mais le terme même de mondialisation positive, c'est une façon encore de sauver la mondialisation.
Voilà, c'est moi qui l'ai dit. C'est pas Bertrand Badie.
Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, et là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand bien même on bouche tous les trous, que par aucun endroit ne peut surgir une critique efficace, eh bien quand même, on ne peut pas cacher ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus pauvres, il y a de plus en plus de pauvres en France, dans les sociétés libérales, qui sont celles du progrès et du bien-être et de la croissance. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de souffrances sociales, il y a de plus en plus de refus de ces modèles-là, et ça, rien ne peut le cacher. C'est-à-dire que finalement, le système finit par révéler ses propres failles. Et face à ces failles, il y a des choses qui s'organisent. Et j'espère qu'elles vont trouver un débouché non pas dans la violence, mais encore dans ce système démocratique où elles pourront proposer un contre-modèle. Mais malheureusement, les espoirs ne sont pas très grands sur ce point.
Mais vous qui avez été technophile et qui l'êtes peut-être encore, est-ce que vous appelez aujourd'hui, vous vous dites, il faut entrer dans une ère, dans un temps de décroissance technologique, apprendre, comme vous le disiez, sur les responsables et dirigeants, les chefs d'entreprise de la Silicon Valley à éteindre, à se préserver de ces espaces, de ces temps d'écran et autres, ou est-ce que vous pensez encore que les technologies peuvent contribuer à concevoir un monde meilleur, à réduire les inégalités, à entrer dans un autre temps plus égalitaire à l'aide des technologies?
On peut si on les détourne de leurs usages premiers, mais en revanche, elles sont structurées de telle façon à ce qu'on ne puisse pas en faire un outil d'émancipation, un outil de plus grande liberté, de plus grande autodétermination, bien au contraire. Donc, non, je ne crois pas qu'elles peuvent servir de base. Il faut autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un imaginaire qui soit parallèle à la question des technologies, qui en tout cas s'en émancipe pour les penser comme une conséquence d'un modèle plus global. Parce que si on s'en tient à elle, en fait, on va reproduire les mêmes erreurs et les mêmes modèles que toutes les générations de critiques précédentes. C'est de s'enfermer dans un système et un débat qui est fait pour ne pas permettre de changement de système.
Merci beaucoup à vous, Diana Filipova. Merci d'avoir été avec nous. Technopouvoir, dépolitiser pour mieux régner. Votre nouvel ouvrage vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo, YouTube, à Clopez. Très bel après-midi à tous sur France Culture.